Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du mercredi 8 mai 2024 dont voici d'abord les principaux titres. Condoléances et condamnations et réactions internationales après les bombardements à Mugunga en RDC.
Alors cette peur a fait assez que Yahi Mouvement a déjà de se déplacer là, qu'il ne voulait plus rester dans les camps parce qu'il se sentait en insécurité.
La mise à l'écart de 2900 observateurs de la société civile au Tchad nuit à la transparence électorale, déplore l'Union européenne. La première visite du nouveau président sénégalais en Côte d'Ivoire, renforcement des relations bilatérales au centre des discussions. Le Bénin bloque l'importation de pétrole nigérien en réponse à la fermeture des frontières.
Je pense que le gouvernement fait bien de stopper l'exploitation du pétrole. C'est trop facile. Le Niger n'a fait aucun effort de comprendre la situation. Le Bénin a fait beaucoup de pas vers le Niger.
Washington suspend une livraison de bombes à Israël face aux inquiétudes concernant Rafah. Biden promet de lutter contre l'antisémitisme aux États-Unis en mettant l'accent sur les campus universitaires. Les électeurs américains mettent la démocratie au sommet de leurs préoccupations. Selon un sondage Ipsos, ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo pour l'instant le journal. L'Union européenne a déploré mardi la mise à l'écart de 2900 observateurs de la société civile au Tchad. Bruxelles souligne que cela compromet la transparence du processus électoral pour le scrutin présidentiel du 6 mai. Les précisions de Jean-Roger Bion.
À la veille de la présidentielle de lundi, quatre organisations de la société civile tchadienne, dont la Ligue des droits de l'homme, s'étaient insurgées contre le refus de la commission électorale de délivrer des accréditations à 2900 de leurs membres pour l'observation du scrutin, malgré des demandes soumises dans les délais requis. L'Union européenne estime que la commission électorale a empêché leur contribution à la transparence du processus électoral, financé à hauteur de 3,8 millions d'euros avec des fonds européens. Des ONG internationales avaient déjà émis des doutes sur la transparence d'une élection qu'elles jugeaient jouée d'avance en faveur du général Mahamat Idriss Déby Itno, le président de transition qui était face à un ex-opposant, Succès Masra, rallié à la junte et nommé premier ministre par le général le 1er janvier dernier. La Fédération internationale pour les droits humains s'était inquiétée d'une élection qui ne semble ni crédible, ni libre, ni démocratique. Et l'ONG International Crisis Group avait également émis des doutes sur la crédibilité du scrutin après l'éviction des candidats d'une opposition politique muselée. Les résultats officiels sont prévus le 21 mai.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a exprimé son désir de clarifier les malentendus au sein de la CEDEAO. Ses propos ont été tenus à l'issue d'une réunion avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara lors de sa visite à Abidjan hier mardi. Plus de détails avec Yacouba Ouédraogo.
La CEDEAO est un outil formidable d'intégration que nous gagnerons à préserver, a déclaré le président sénégalais Diomaye Faye, invitant à des réformes nécessaires pour dissiper les incompréhensions sur l'organisation ouest-africaine, selon lui. En janvier, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont annoncé leur retrait de la CEDEAO, qu'ils accusent d'être inféodés à la France et de ne pas assez les soutenir dans la lutte anti-djihadiste. Sur le plan bilatéral, les présidents Diomaye Faye et Alassane Ouattara ont tous deux qualifié d'excellentes les relations entre leurs pays, qui viennent de découvrir encore plus de gaz, de pétrole et d'or. Le président ivoirien estime que c'est une occasion pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire d'avoir des taux de croissance à deux chiffres. Bassirou Diomaye Faye soutient que les deux pays peuvent faire plus dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la défense et de la sécurité.
13 personnes impliquées dans un important trafic international de cocaïne, dont le cerveau espagnol des opérations en Côte d'Ivoire, ont été condamné mardi à 10 ans de prison, a annoncé la juge du pôle pénal économique et financier d'Abidjan. Ils ont été condamnés pour trafic international de drogue et association de malfaiteurs et devront payer chacune 50 millions de francs CFA d'amende. En avril 2022, plus de 2 tonnes de cocaïne avaient été saisies dans les villes portuaires d'Abidjan et San Pedro, un record pour ce pays d'une valeur marchande estimée à 41 milliards de francs CFA. Une trentaine de personnes avaient été interpellées. Professionnels de la pêche et défenseurs de l'environnement ont salué mardi la publication par le ministère des Pêches d'une liste des bateaux autorisés à pêcher dans les eaux du Sénégal. La liste publiée lundi répertorie 132 navires industriels battant pavillon sénégalais, 19 étrangers et plus de 17 400 pirogues artisanales autorisées à pêcher dans les eaux sénégalaises à la date du 6 mai. Cette décision est censée répondre aux priorités, aux principes de transparence dans la gestion des ressources naturelles. La pêche fait vivre directement ou indirectement environ 600 000 Sénégalais pour une population d'environ 18 millions selon l'ONU. Les licences accordées aux armateurs et industriels, notamment européens et chinois, sont un grief ancien et constant. Le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, investi en avril, a promis de rétablir une souveraineté bradée, selon lui, et de réévaluer les accords de pêche. Les ambassadeurs de l'Union européenne s'expriment aujourd'hui sur la coopération avec le Sénégal, un mois après l'investiture d'un nouveau président.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a promis mardi de lutter contre la montée inquiétante de l'antisémitisme qu'il estime incompatible avec les valeurs des États-Unis, notamment dans les universités, théâtre de manifestations en faveur de la cause palestinienne. Rosine Munezero.
Le président Biden rappelle que c'est le Hamas qui a déclenché cette terreur en référence à l'attaque inédite le 7 octobre du mouvement palestinien, suite à laquelle Israël a lancé une vaste offensive militaire dans la bande de Gaza. Le président Biden s'exprimait lors de la cérémonie annuelle des Jours du Souvenir organisée par le Musée américain de l'Holocauste au Capitole. Il a rappelé que cette attaque avait été la plus meurtrière pour des Juifs depuis la fin de l'entreprise d'extermination nazie. Le discours du président américain intervient quelques jours après ses premières remarques sur les protestations estudiantines contre la guerre d'Israël à Gaza, qui dure depuis plusieurs semaines. Nous avons l'obligation de retenir les leçons de l'histoire pour ne pas soumettre notre avenir aux horreurs du passé, a déclaré Joe Biden. La Maison-Blanche a annoncé des initiatives visant notamment les campus. Parmi elles, une nouvelle circulaire du ministère de l'Éducation qui précise ce qui relève de la discrimination antisémite. Le ministère de la Sécurité intérieure va mettre en place de nouvelles ressources en ligne pour les universités.
Les protestations d'étudiants pro-palestiniens continuent en Europe avec l'occupation de campus et le blocage de locaux universitaires, notamment à Paris, Berlin, Cologne, en Autriche et en Suisse, dont certains ont été évacués par les forces de l'ordre. Les étudiants exigent un boycott académique des institutions israéliennes et plaident aussi pour un cessez-le-feu, le rétablissement du financement de l'UNGWA et la fin de l'occupation et de l'apartheid, écrivent-ils lundi dans un communiqué. L'armée israélienne multiplie les frappes aériennes dans la bande de Gaza après avoir pris le contrôle hier du passage stratégique avec l'Égypte. Les États-Unis ont par ailleurs annoncé avoir suspendu une livraison de bombes à Israël face aux inquiétudes sur Rafah. Claire Morin-Gibourg.
Tôt ce mercredi, des témoins ont fait état de frappes dans différents secteurs du territoire palestinien, notamment dans la ville de Gaza au nord. L'armée israélienne a déployé des chars mardi dans Rafah, pris le contrôle du passage frontalier avec l'Égypte et fermé les deux principaux points d'accès à l'aide humanitaire, Rafah et Kerem Shalom, une mesure jugée inacceptable par les États-Unis. Dans le même temps, les médiateurs égyptiens, qataris et américains tiennent des discussions au Caire en Égypte en vue d'un cessez-le-feu après 7 mois de guerre. Un haut responsable de l'administration Biden a déclaré sous anonymat que les États-Unis avaient suspendu la semaine dernière la livraison d'une cargaison de bombes après l'absence de réponse d'Israël face aux inquiétudes de Washington concernant une offensive sur Rafah dans le sud de Gaza. Washington a clairement indiqué qu'il ne soutenait pas une offensive sans plan crédible pour protéger les civils. Le département d'État américain examine également d'autres transferts d'armes.
Un tribunal fédéral de Floride a reporté mardi sine die le début du procès pénal de l'ancien président américain Donald Trump dans l'affaire où il est accusé d'avoir fait un usage négligent de documents classés confidentiels. Dans ce dossier pénal, un procès devait s'ouvrir le 20 mai, mais la juge fédérale a estimé cette date intenable en raison du nombre de requêtes préalables présentées au tribunal. Cette décision rend très improbable la tenue d'un procès dans ce dossier avant l'élection présidentielle du 5 novembre pour laquelle il est candidat. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a appelé à sanctionner ceux qui facilitent la migration illégale lors d'une conférence régionale mardi au Guatemala sur les migrations, un sujet au centre de la campagne présidentielle aux États-Unis. Blinken a notamment pointé les vols charter arrivant au Nicaragua avec des candidats asiatiques et africains à l'exil aux États-Unis. L'armée américaine a indiqué ce mardi avoir commencé à déployer en Haïti des éléments précurseurs à l'envoi d'une force multinationale de sécurité sous leadership kényan face à la violence des gangs et une grave crise humanitaire. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez Jean-Roger Billon qui vous présente ce matin la Minute Éco.
Les vols de Kenya Airways vers Kinshasa reprennent ce mercredi 8 mai. La liaison avec la RDC avait été suspendue fin avril en raison, selon Nairobi, de la détention de deux employés de Kenya Airways dans la capitale congolaise. Ces derniers ont été libérés mardi. L'émissaire chinois pour le climat Liu Zemin est en visite depuis mardi ici aux États-Unis pour rencontrer son homologue américain John Podesta. Ce voyage intervient au moment où les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre cherchent à renforcer leur coopération dans la lutte contre le changement climatique. TikTok et sa société mère chinoise ByteDance ont déposé une plainte auprès de la justice fédérale américaine afin de bloquer une loi signée par le président Joe Biden. La mesure adoptée par le Congrès obligerait à céder ce réseau social utilisé par 170 millions d'Américains ou à en interdire l'utilisation. Les législateurs américains craignent que la Chine puisse accéder à des données sur les Américains ou les espionner grâce à l'application.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Balle au panier avec la Basketball Africa League, les Rivers Hoopers enchaînent dans la conférence du Sahara.
Oui, les Nigériens ont dominé hier les Tunisiens de l'US Monastir 84 à 63 à la Dakar Arena. Les Rivers Hoopers confortent ainsi leur place de leader de cette conférence du Sahara avec 3 victoires en 3 matchs dans l'autre rencontre. Le club hôte, l'AS Douane du Sénégal, s'est incliné 66 à 61 devant Armée Patriotique Rwandaise. Pas de match aujourd'hui. C'est jour de repos. Pour rappel, ces 4 équipes sont en lice pour 2 tickets qualificatifs directs pour les playoffs prévus à la fin de ce mois à Kigali, au Rwanda.
Football Yakuba, le Borussia Dortmund est le premier qualifié pour la finale de la Ligue des Champions.
Le club allemand s'est imposé sur la plus petite des marques 1 à 0 au Parc des Princes. L'unique but a été inscrit par le défenseur allemand Marc Hummels sur un corner. Le Borussia Dortmund l'avait emporté 1 à 0 à l'aller à domicile. En finale à Wembley, Dortmund va affronter soit le Real Madrid, soit le Bayern Munich. Sacré champion d'Espagne ce week-end, le Real Madrid a l'histoire de son côté pour cette demi-finale retour dans son stade Santiago Bernabéu où il est invaincu depuis plus d'un an. Lui qui compte 14 couronnes continentales, une statistique résume l'ampleur du défi bavarois qui garde toutefois toutes ses chances après son nul 2-0 à Munich à l'aller.
Athlétisme avant de nous quitter, Faith Kipyegon donne la priorité aux 1500 mètres.
L'objectif principal de la double championne olympique du 1500 mètres aux Jeux de Paris sera de remporter un 3e titre historique. C'est ce qu'a affirmé Faith Kipyegon, disant n'avoir pas encore pris de décision sur sa participation aux 5000 mètres. Outre la Kenyane de 30 ans sacrée en 2016 et 2021, seuls 2 athlètes ont remporté 2 médailles d'or olympiques sur 1500 mètres, le Britannique Sébastien Coé et la Soviétique Tatiana Kazankina. Mon objectif principal est de défendre mon titre sur 1500 mètres, devenir la première personne à remporter 3 médailles d'or en 1500 mètres, a déclaré Faith Kipyegon dans son camp d'entraînement de Kaptagat à l'ouest du Kenya. Elle a battu en juin dernier le record du monde du 5000 mètres, 14 minutes 5 secondes, qui a depuis été pulvérisé par l'Éthiopienne Goudaf Tesgay, 14 minutes 00 secondes.
La page des sports signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Les réactions se multiplient après les attaques qui ont causé la mort d'une dizaine de personnes dans un camp de déplacés à Mugunga, près de Goma, lors des affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Washington ainsi que d'autres capitales et organisations ont vivement condamné les bombardements. Les États-Unis ont même pointé du doigt le Rwanda, les exhortant une fois de plus à retirer leurs troupes de la RDC. Cependant, Kigali nie toute implication dans ces événements. Eddie Isango a joint à Goma le responsable de la communication du CICR, Regan Kimbale.
Effectivement, il y a eu bombardement des mortiers au niveau des cas de Mugunga le vendredi 3 mai 2024. Et cette situation a créé une panique au niveau des camps parce que déjà notre structure chirurgicale au niveau de l'hôpital de Ndosho avait déjà reçu du coup une vingtaine de blessés. Malheureusement, parmi les blessés, il y avait 4 qui étaient arrivés déjà morts. Alors cette peur a fait assez que il y a eu mouvement déjà de se déplacer là, qui ne voulait plus rester dans les camps parce qu'ils se sentaient en insécurité. Il y a eu d'autres carrément qui ont décidé de quitter les camps des déplacés de Lushaga là pour se diriger vers Goma dans les zones où ils supposaient être en sécurité. Et du coup, d'autres n'ont pas pu retourner dans ces camps-là parce qu'ils avaient peur dire que la situation pouvait se répercuter. C'est ce qui a créé assez qu'il y ait un mouvement de déplacés au niveau des camps et c'est d'autres qui sont partis et quasiment la majorité était partie ces jours-là du camp par peur qu'il y ait encore des retombées des mortiers comme c'était arrivé.
Il y en a donc qui sont restés, mais dans quel état d'esprit vivent-ils?
Esprit de panique, esprit de peur, et ils ne savent même pas où aller, ils ne savent pas quoi faire, parce que s'ils ont été placés au niveau des camps, c'est parce que c'est une zone où ils supposaient être en sécurité. Ils ont été là, ce n'est pas parce qu'ils le voulaient, c'est parce qu'ils ont fui leur zone d'origine, faute compte tenu des combats. Et voilà, du coup, quand il y a de bombardements des mortiers au niveau du camp, ça crée une panique, ça crée la peur et ça fait assez que ces déplacés-là ne sont pas en sécurité. Carrément, d'autres ont décidé de ne plus retourner dans les camps parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Et ça leur met dans une condition compliquée, déplorable, où ils n'ont pas de famille, ils doivent chercher où avoir un abri sécurisé, ils doivent voir comment se nourrir et ça a créé une situation très compliquée. Complexe pour certains jusqu'à présent.
Ce n'est pas le seul endroit où, ni la première fois où les bombes sont lancées dans des camps de déplacés. Hein.
Oui, ce n'est pas la première fois. Ça fait déjà 3 ou 4 fois, d'ailleurs aux alentours de Mugunga. Mais vraiment, ces derniers cas étaient les cas les plus frappants.
Ils sont déjà en détresse, ces gens. Est-ce qu'il y a suffisamment d'assistance pour eux, surtout que maintenant ils sont obligés d'aller dans d'autres camps, de se déplacer à nouveau?
Le problème, c'est que pour le moment, la situation humanitaire est complexe. Comme vous le savez, avec la crise mondiale, beaucoup d'organisations essaient d'apporter l'assistance le peu comme ils le peuvent.
Regan Kimbale, responsable de la communication au sein du CICR à Goma. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire ce mardi 7 avril. Au cours de sa rencontre avec son homologue ivoirien, les discussions ont principalement porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Notons que c'était la première visite du nouveau président sénégalais en Côte d'Ivoire depuis son élection. Voici le compte-rendu de notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomegno.
Première visite officielle du président sénégalais Diomaye Faye en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État sénégalais a été reçu dans un premier temps par le vice-président de la République, suivi par le président de la République au palais. Les deux hommes ont évoqué plusieurs sujets de discussion, notamment sur le plan culturel, économique et sécuritaire. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal.
Dans le secteur de l'agriculture, avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire, dont nous voulons largement nous inspirer, et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même.
En ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, de nombreuses études ont affirmé qu'elles s'élèvent à près de 2030 milliards de francs CFA en 2022. De quoi satisfaire les autorités des deux pays qui représentent un poids économique important dans la sous-région. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.
Nous sommes parvenus à une convergence totale de nos points de vue. Et je m'en félicite. Et cette question, que ce soit sur la question de démocratie, que ce soit sur la question de coopération régionale, ou bien de la situation internationale, nous sommes totalement donc en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays.
Cette relation entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne date pas d'hier. Les deux pays ont su nouer avec le temps des coopérations dans des secteurs d'activité tels que l'habitat, l'énergie et le pétrole, ainsi que la culture. Mais avec l'arrivée du nouveau président, des changements peuvent arriver, selon de nombreux experts. Julien Kouao, analyste politique.
Les nouvelles autorités sénégalaises ont affirmé également vouloir, au niveau des relations internationales, des rapports interétatiques équitables, surtout avec la France. Vous savez très bien que le Niger, le Burkina et le Mali ont annoncé unilatéralement leur départ de la CEDEAO. Certainement que le nouveau président sénégalais va essayer de jouer le facilitateur entre la CEDEAO et les pays de l'AES pour éventuellement espérer un retour des trois pays au sein de la communauté ouest-africaine.
Depuis son accession au pouvoir, c'est le quatrième pays visité par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, après ses voisins frontaliers comme la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, uniquement des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ange Bijounomayon pour VOA Afrique, à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Les autorités béninoises ont décidé lundi de bloquer l'importation de pétrole en provenance du Niger à partir de Sémé Boti, en signe de protestation contre le maintien de la fermeture des frontières du côté nigérien. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé, donne plus de détails.
La décision du gouvernement béninois sonne comme un retour au bras de fer entre le Bénin et le Niger. L'embargo sur le pétrole nigérien a été notifié à l'ambassadeur de la Chine au Bénin ainsi qu'à la société chinoise chargée de gestion du pipeline reliant le Bénin au Niger. Pour certains béninois, le gouvernement fait bien de prendre une telle décision. Alain est un ouvrier portuaire.
Je pense que le gouvernement fait bien de stopper l'exploitation du pétrole. C'est trop facile. Le Niger n'a fait aucun effort de comprendre la situation. Le Bénin a fait beaucoup de pas vers le Niger. Mais bon, comme les autorités actuelles sont des militaires, elles n'ont pas voulu entendre raison. En matière de relations bilatérales, vous savez, il faut avancer de façon consensuelle. Pourquoi nous allons leur permettre d'avoir du pétrole alors qu'ils ne sont même pas prêts à ouvrir leurs frontières? Je ne suis pas pour talon, mais là, j'applaudis très fort.
D'autres soutiennent qu'il ne sert à rien de se vautrer dans une situation sans issue, même s'ils comprennent que par cette décision, le Bénin essaye de forcer la main au Niger. Ernest est un acteur politique qui a requis l'anonymat.
C'est pas une décision qui fera mal au Niger, non. Le Bénin aussi va subir parce que le Bénin aussi, à travers ce projet, perçoit donc des impôts. Et les Béninois trouvent de l'emploi donc pour l'exploitation de ce projet, de ce pétrole nigérien. Le Bénin aussi tire profit. Alors, si l'État béninois arrive à stopper l'exploitation du pétrole du Niger par le port de Cotonou, par la baie de Cotonou, et l'entreprise chinoise qui est en train d'exploiter cette ressource nigérienne ne va pas rester les bras croisés aussi, puisqu'elle a fait des investissements et elle attend le retour sur l'investissement. La pression chinoise aussi serait là sur l'État nigérien et je crois que ça va faciliter le retour à la paix.
Pour Baudelaire, qui est un professeur de philosophie, le Bénin, une fois encore, vient de rater une occasion de faire les choses dans les règles de l'art.
Je pense que c'est une décision que moi je déplore. Je pense que c'est ensemble que l'État béninois et l'État nigérien se sont mis ensemble pour que ça soit un projet réalisable, un projet quand même qui puisse trouver le jour. Si déjà l'État béninois peut s'attendre jusqu'à ce que le tout soit fait et que maintenant le pétrole quand même pour un premier essai soit envoyé, que l'État béninois bloque juste parce que quoi, le Niger a refusé d'ouvrir les frontières de son côté, je pense que là ça ne va pas trop.
Le Bénin accueille 675 km du pipeline sur une longueur totale de 1980 km. Celui-ci devrait lui rapporter environ 490 millions de dollars, soit 300 milliards de francs CFA de recettes fiscales sur 20 ans. En outre, il permettra au Niger de porter sa capacité de production de pétrole à 110 000 barils par jour. Par ailleurs, l'infrastructure crée au moins 3 000 emplois dans les deux pays. Les autorités béninoises n'ont fait aucun commentaire dans les médias. De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
Selon un récent sondage Ipsos, les électeurs américains se montrent désormais plus préoccupés par les menaces pesant sur la démocratie que par des sujets tels que l'économie et l'immigration qui étaient auparavant au premier plan de leurs préoccupations. Veronica Balderas Iglesias de la VOA nous en dit davantage. Gabi Dorsil pour le récit.
Lorsqu'ils se sont présentés aux urnes en mars, les électeurs démocrates et républicains inscrits en Arizona ont clairement indiqué leur préférence comme porte-étendard de leur parti le 5 novembre. Howard Webster a voté à Phoenix.
Je pense que Joe Biden est le seul candidat qui nous offre la liberté, la démocratie, la liberté pour tout le monde, pas seulement pour les gens qui votent pour lui.
Nicolas Pella est un autre électeur de l'Arizona.
J'ai voté pour Donald Trump. Je crois qu'il est le seul à vouloir défendre la Constitution telle qu'elle a été écrite. Et il est le seul à être attaqué par tous les autres pour cette raison.
L'extrémisme politique et les menaces qui pèsent sur la démocratie sont les problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les États-Unis, selon les électeurs interrogés par Ipsos à la mi-avril. Les démocrates s'inquiètent de l'autoritarisme, selon Clifford Young, président d'Ipsos Public Affairs.
En réalité, les démocrates, lorsqu'ils disent qu'ils sauvent la démocratie, disent en fait qu'ils sauvent la démocratie de Trump. Nous appelons cela le vote anti-Trump et d'après nos estimations, il représente environ 25% de la population adulte.
Les indépendants partagent les préoccupations des démocrates, mais les républicains voient la protection de la démocratie d'un autre œil. De nouveau, Clifford Young d'Ipsos.
La plupart des critiques formulées par la droite républicaine portent sur un système défaillant, un système contrôlé par les élites ou truqué par des élites. En fin de compte, lorsque les républicains parlent de sauver la démocratie, ils parlent en fait de la machinerie électorale et de l'équité des élections en général.
Trump lui-même a insufflé un sentiment d'urgence à ses partisans.
Si nous ne gagnons pas le 5 novembre, je pense que notre pays cessera d'exister. Ce pourrait être la dernière élection que nous n'ayons jamais eue. Je le pense vraiment.
Dans sa tentative de réélection, le président Joe Biden met également en garde contre les risques qu'il voit dans le retour de Trump à la Maison-Blanche.
Notre démocratie est vraiment en danger. Quand il parle d'être un dictateur dans le premier jour, il veut dire être capable de nier des éléments de la Constitution.
Les sondages ne sont que des instantanés, il est vrai, mais 38% des électeurs interrogés par Ipsos pensent que Biden a un meilleur plan pour faire face aux menaces qui pèsent sur la démocratie, contre 29% en faveur de Trump, dit Clifford Young.
Biden est un candidat de l'establishment. Il est une créature de l'establishment. Il est perçu comme l'ordre et la stabilité. Trump, plus spécifiquement, représente en quelque sorte cette rupture avec l'establishment.
Après la protection de la démocratie elle-même, les électeurs interrogés ont placé l'économie et l'immigration au premier rang de leurs préoccupations avant les élections générales.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manila Kiza était avec vous à ce micro. Lionel Manila Gahima a assuré la production et la réalisation à la console Nashwan Kale. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.